Mais bonjour à tous et à toutes. Des visages que je connais, d'autres que je ne connais pas. Voilà, donc c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'est pas venu ici, mais c'est une joie de venir. Hein. Voilà, en venant, j'ai dit, tiens, on va aller dans le sud, il va faire plus chaud. Mais non, Savigny, c'est pas le grand sud. Hein. Mais c'est quand même plus chaud qu'à Nanterre. Donc on vient de Nanterre. Donc voilà, on a commencé un travail pionnier dans cette ville il y a quelques dizaines d'années déjà. C'est la préfecture des Hauts-de-Seine. Et pour ces 90 000, presque 100 000 habitants, il n'y avait aucun témoignage. Comment peut-on ne rien faire? Comment peut-on laisser des gens comme ça? Alors on a commencé un témoignage à la maison, avec les voisins, certains de mes élèves, parce que j'étais prof, hein. Certains de mes collègues et tout, puis peu à peu ça a grandi. Alors après, il fallait donc trouver une salle. Mais trouver une salle à Nanterre, c'est mission impossible. Hein. C'est pas comme ici, je pense pas facile non plus, j'imagine, à Savigny, mais à Nanterre, louer, c'était pas possible. Hein. Et chose merveilleuse et miracle, si je puis dire, de la part du Seigneur, c'est la municipalité socialo-communiste qui nous prête gracieusement une salle. Et ça depuis donc une trentaine d'années. Il y a eu des difficultés quelquefois, mais le Seigneur a toujours pourvu. Le Seigneur a toujours pourvu pour que nous ayons une salle. Donc, on a la salle tout le dimanche. Donc, tous les dimanches sont comme votre dimanche, hein, matin, midi, et c'est après-midi pour la réunion de prière. Et le mardi soir, ben, c'est l'étude biblique. Et on est avec Zoom, parce qu'on a des personnes qui nous écoutent un peu partout en France. Et donc voilà, donc on continue. Et puis comme maintenant il y a des frères qui se sont formés sur place, eh bien je peux prendre un peu de liberté pour venir voir mes chers frères et sœurs un peu partout. Voilà. Donc en quelques mots pour ce témoignage. Alors je pense que j'encourage chacun. Et quand on a des jeunes couples qui se sont faits dans l'église, on a eu des mariages, j'ai dit toujours, quel est ton projet? Quel est votre projet pour le Seigneur? Bon, vous avez des projets quand on se marie, hein, avoir des enfants. Oui. Mais je pense qu'il faut avoir des projets pour le Seigneur et toute maison doit être une salle d'accouchement. Voilà. Et je vous le souhaite parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais il y a une chose qui est extraordinaire, c'est de voir des gens qui viennent à la vie éternelle dans votre propre maison et qui ont une vie d'église. Ceci n'empêchant pas cela. Voilà. Donc je suis heureux d'être avec vous. Je sens que s'il fait froid dehors, vous avez le cœur bien chaud, hein? Oui? Sûr? Ah, ouf. Voilà, donc on va donc créer deux réunions, une ce matin, et donc sur ce sujet, autrefois et maintenant. Je ne sais pas si j'ai encore des choses à dire, mon frère a dit tellement de choses, mais il y en a encore des choses, on verra. Et puis cet après-midi, un autre aspect, la deuxième partie, donc ce matin, ça va être une nouvelle relation avec Dieu, par Jésus-Christ, et pour cet après-midi, réunion aussi très importante, où je retrouve le titre, notre intégration dans les bénédictions du peuple juif. Bien, c'est tout à fait extraordinaire. Bon, non, je ne fais pas de la pub, mais quand même, il faut le dire. Donc, nous allons commencer par ce passage d'Éphésiens 2, que notre frère a lu tout à l'heure. Et on va voir à quel point c'est merveilleux. Mais avant, une petite remarque d'abord. Il me manque une page. Peut-être elle est restée. Regarde si dans mon sac. Bon, c'est pas grave. Donc, la pensée globale, la première pensée que j'ai, c'est que nous comprenions à quel point nous avons un si grand salut. Ce terme, on le trouve dans l'Épître aux Hébreux. Effectivement, il nous est dit, de la part de l'apôtre, celui qui a écrit, parce qu'on ne sait pas très bien qui c'est, que nous avons un si grand salut. Et je pense qu'il est absolument nécessaire pour nous que nous comprenions à quel point nous avons un si grand salut. Et dans l'épître de Pierre, il nous est dit que ces hommes de l'Ancien Testament cherchaient à comprendre ces choses. Ils voulaient comprendre comment allait se passer ce salut. Bien entendu, ils avaient beaucoup moins de documents que nous, qui avons la Bible en entier. Mais pour eux, c'était important de connaître ces choses. Et avec l'Esprit de Christ, ils essayaient de comprendre en quoi ce salut était si grand. Donc c'était des chercheurs. Et nous devons être des chercheurs. Si je veux comprendre tout cet amour de Dieu pour moi, toutes ces choses que Dieu a fait pour moi, il faut que je cherche à comprendre toujours davantage en quoi c'est un si grand salut. Trop souvent, on se contente d'une approximation dans la connaissance de notre salut. Oui, j'étais pécheur. Oui, Dieu m'a aimé. Oui, Dieu m'a sauvé. C'est bien, c'est juste, c'est vrai. Mais si je ne vais pas jusqu'au bout de la démarche pour comprendre toutes ces choses, eh bien, je vais passer à côté de réalités spirituelles énormes. Et puis, on verra que c'est un sujet, quand on découvre tout cela, à quel point notre Dieu est digne de louange et d'adoration. Donc, c'est dans cette épître de Pierre qu'on voit. Alors, bien sûr, je cherche, vous devez chercher à comprendre toutes ces choses. Et bien entendu, on est loin de notre découverte. Mais je suis certain d'une chose aussi, c'est lorsque nous serons auprès du Seigneur, il va expliquer tout ce que nous n'aurions peut-être pas compris. Et qu'est-ce que ça va produire? Ben de la louange et de la gloire. Quand on va connaître tout ce que nous avons à connaître, pour l'instant, nous ne pouvons pas comprendre toutes choses, il y a des choses qui nous échappent, d'accord? Mais quand on sera auprès du Seigneur, tout nous sera exposé. Et quand je lis l'Apocalypse et que je vois à quel point il y a de la louange et de l'adoration qui sort de la bouche de ceux qui sont présents, eh bien, c'est parce qu'ils vont comprendre tout ce que Dieu a fait pour eux. Donc, cette recherche doit être pour nous évidente. Alors, dans la Bible, il y a les apôtres Paul, Pierre et Jean qui vont nous encourager à mieux comprendre ces choses en utilisant deux termes qui ont été donnés tout à l'heure, autrefois et maintenant. Alors, dans Éphésiens 2, verset 1, il est dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Dans Genèse 2,17, il est dit que, à cause du péché, eh bien, l'homme est mort. Dieu a dit « Tu mourras et tu retourneras la poussière. » Ça, c'est la mort physique qui nous atteint tous, tôt ou tard. Mais il y a une autre mort qui est beaucoup plus grave, c'est cette mort spirituelle qui a été, enfin, que l'homme connaît à cause de cette séparation avec Dieu. Hein, dans le jardin d'Éden, non seulement il y a eu cette rupture, ils ont été chassés du jardin d'Éden, et ils n'avaient plus le droit de rentrer dans le jardin d'Éden pour se nourrir de l'arbre de vie, de Christ. Sinon, ils auraient été éternellement pécheurs. Ils auraient été éternellement pécheurs. Dieu n'a pas voulu cela. Il a fermé ce jardin, et il y a des anges qui étaient là pour le garder. Mais cet ange, cet arbre de vie, pas très compliqué de comprendre que c'est Christ, quoi. Parce que c'est en Christ que nous avons la vie éternelle. Donc, les apôtres vont essayer, par différents moyens, de nous faire comprendre justement cette différence entre autrefois et maintenant. Et pour bien comprendre cette autrefois, je pense à deux textes qui sont dans le livre d'Ésaïe. Si vous avez votre Bible sur vous, voilà, c'est dans Ésaïe au chapitre 6, verset 13. Donc on est au début du livre d'Ésaïe. C'est une merveille, hein, ce livre. Hein. C'est extraordinaire. Au chapitre 6, verset 1, il est dit « L'année de la mort du roi Ozias, » donc c'est ainsi qu'on sait à quelle époque a été écrit ce livre, « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. » Imaginez, c'est grandiose. D'ailleurs, c'est tout à fait des visions de l'Apocalypse également. La grandeur, la magnificence de notre Dieu. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds. Ça nous rappelle le tabernacle. Et ils criaient l'un à l'autre, ils disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » Donc allez, on voit ici, la première chose à comprendre, pour mieux saisir cette autre foi, il faut comprendre la sainteté de Dieu. C'est quelque chose souvent qui nous manque, de comprendre la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu ne doit pas nous effrayer, bien qu'elle est effrayante, que personne ne peut voir Dieu sans mourir. Et puis après il dit, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Autrement dit, devant la magnificence de Dieu, Ésaïe est accablé. Malheur à moi, malheur à moi, car je suis perdu. Bien-aimé, c'est la première chose que nous devons nous rendre compte, comme Ésaïe, qui était quand même un homme de Dieu. Malheur à moi, je suis perdu. Malheur à moi, je suis perdu. Voilà l'autre foi, dans toute sa profondeur. Malheur à moi, je suis perdu. Et si rien n'était existé, arrivé dans nos vies, ben vous savez que nous étions tous destinés à l'enfer. Tous. Séparés éternellement de Dieu. Séparés éternellement de Dieu. Parce que nous étions morts par nos offenses. Nous étions morts spirituellement par nos offenses. Dans Ésaïe, toujours Ésaïe 59, verset 1, c'est un verset que j'aime beaucoup, comme beaucoup de versets, hein. Comme on est dans Ésaïe, je vais y rester, parce qu'il y a d'autres passages, mais on va rester dans celui-là, car il est très fort aussi. Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. J'aime beaucoup ce verset parce qu'il sous-entend que Dieu peut sauver. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et après, il y a toute une description, mais si elle ne nous convient pas totalement, on y est pour beaucoup. Nous sommes une race impure. Nous sommes une race impure. Et là, dans cette impureté, il n'y a pas de couleur de peau qui tient, niveau social ou quoi que ce soit. Nous sommes tous destinés à l'enfer. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité, etc., etc. Et comme Dieu a mis dans le cœur de l'homme, selon le livre de l'Ecclésiaste, la pensée de l'éternité, toutes les religions vont essayer de s'approcher de Dieu. D'ailleurs, la religion, c'est tous les efforts que fait l'homme pour s'approcher de Dieu. La foi, c'est tous les efforts que le Christ a fait pour s'approcher de nous. C'est complètement différent. Et quand on me dit, vous êtes un religieux, je dis, non. Je suis d'origine catholique, comme peut-être beaucoup d'entre vous. Mais la religion, non. La foi, oui. La foi, oui. Cette union avec Dieu personnel. La foi d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, d'Ésaïe, de tous ces gens de l'Ancien Testament. Voilà notre autre foi. C'est pas beau, hein? On était mal partis, comme on dit, hein? Vous étiez morts spirituellement par vos offenses, devant la sainteté de Dieu. Mais, au chapitre 2, toujours, au verset 5 et 6, je reviens dans Éphésiens, il nous est dit, maintenant, nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus vivants ou vivifiés avec Christ. De mort à vivant. Pour comment ? Par qui ? Par Christ. Autrefois, destiné à la mort, et maintenant en Jésus-Christ, destiné à la vie. Quelle différence de statut ! Souvent, quand j'entends des témoignages de personnes qui... Tous les témoignages sont différents. Enfin, non, ils sont tous différents, mais il y a toujours qu'un seul moment où il y a une porte unique. Notre frère l'a dit, on l'a chanté, « Tu es la voie, tu es le chemin, la vérité, la vie, le chemin. » Il n'y a pas d'autre chemin. Mais nos origines sont très différentes. Alors bien sûr, quand c'est quelqu'un qui a vécu dans le péché, vous savez vraiment, le péché, mais bien, là, quelque chose de... Bon, la drogue, etc. Enfin, des choses épouvantables. Quand ils se convertissent, la différence entre le autrefois et le maintenant peut être très importante. C'est peut-être le cas de certains. Mais je pense aux enfants de chrétiens. Eux, quand on leur demande leur témoignage, bon, ils n'ont pas grand-chose à dire. Papa et maman les ont empêchés de pécher. Merci aux parents. C'est ce que m'a dit ma fille. Donc pour eux, c'est difficile de comprendre l'autrefois. Mais vous êtes comme les autres. Même si vous n'avez pas beaucoup péché, nous sommes quand même des pécheurs. Et à cause d'un seul péché, Adam et Ève ont été chassés du paradis, qui peut dire, j'en ai fait moins qu'un. D'accord. Au moins, il n'y a pas de menteur parmi vous. Nous sommes tous pécheurs. Et il faut que nous comprenions, même les enfants de chrétiens, à quel point naturellement nous sommes mauvais, à quel point nous sommes pécheurs. Ésaïe était un type certainement très bien. Malheur à moi, quand il voit la sainteté de Dieu. Mais Dieu nous a vivifiés, nous a rendus à la vie avec Christ. Comment cela ? Romains 5, 9. Alors, je vais vous citer beaucoup de maintenant. Il n'y a pas que ceux d'Éphésiens. Romains 5, 9. Maintenant, nous sommes justifiés par son sang. Voilà. J'étais injuste, j'étais perdu, j'étais éloigné, mais je suis maintenant rendu juste aux yeux de Dieu. Parce que le Christ à la croix a porté mes péchés. Vous le savez. Voilà mon maintenant. C'est une certitude. Deuxième chose, Romains 5, 11, notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Qui dit réconciliation, c'est qu'avant il y avait opposition, antagonisme. C'est ce qui se passait pour nous. Et donc nous avons été réconciliés. Romains 8, 1, il y a donc maintenant, ça c'est un verset que vous connaissez, j'espère, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Autrefois, je ne peux pas insister plus, parce que le seul qui peut insister dans vos cœurs, c'est le Saint-Esprit, pour vous montrer ce que nous sommes naturellement, ce que chacun d'entre nous est naturellement. C'est son rôle, je vous ai dit dans l'évangile de Jean. Et puis, le maintenant. Alors, bien entendu, j'espère que parmi vous, tout le monde, et mon frère l'a dit aussi, est dans le maintenant. Si vous êtes encore dans le autrefois, vous êtes en danger de mort. Pas physique, parce que ça... Mais spirituel. C'est terrible d'être éloigné éternellement de Dieu. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, c'est ça. L'enfer est présenté comme ceux qui n'auront pas part à la gloire de Dieu. Alors que des fois on dit, ah là, je connais un enfer. Oh, c'est l'enfer, oui. Non, heureusement que non, parce que je n'ai pas une totale... Enfin, il y a des descriptions de l'enfer, c'est terrible. Nous pouvons échapper à cela, parce que maintenant, en Jésus-Christ, nous qui étions morts, nous sommes rendus vivants ou vivifiés. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est pour ça que la base de tout changement de condition aux yeux de Dieu passe en premier lieu et obligatoirement par l'obtention de ce salut en Jésus-Christ. Comment peut-on vivre encore dans le autrefois quand on connaît ce qui va nous arriver? Est-ce que c'est par peur que je me convertis? Je connais des gens qui se sont convertis par peur. Quand ils ont compris ce que c'était que l'enfer, d'être abandonnés de Dieu, sous sa colère et tout, ils ont eu... La crainte de Dieu est une bonne chose ou pas? Oui, c'est écrit. Pas la peur, hein, mais la crainte. Et c'est, on voit très bien qu'Ésaïe, là, il a eu une crainte terrible de Dieu. Mais Dieu est intervenu. Conséquence, pour chacun d'entre nous, si ce n'est pas encore le cas, peut finir un autre fois et commencer un maintenant. Voilà. Moi, j'avais 16 ans, mon premier contact avec l'Évangile. Et depuis 16 ans, l'âge de 16 ans, oh, j'ai pas toujours été un chrétien. Enfin, 75 ans, ça va pas mieux, quand est-ce que ça ira mieux, hein? Vous êtes tous jeunes, hein. Donc vous êtes tous, hein. Voilà, il faut grandir. Éphésiens 2, verset 2, « Vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, c'est-à-dire le système de ce monde, selon le prince ou le chef, le maître de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Oula, explication. Ce prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agite les gens, les fils de la rébellion, c'est Satan. Satan est le maître de ce monde. Il est le maître de ce monde. Ne soyons pas étonnés si, quand on lit, écoute la radio, lit les nouvelles, ou je sais pas quoi, c'est terrible. Mais c'est le maître de ce monde. C'est le destructeur. Il a poussé des gens épouvantables, que ce soit Staline, Hitler, Mao Tse-tung. Ça, c'est là, c'est au minimum pour eux 20 millions de morts. Mao Tse-tung, c'est 80 millions de morts. Avec tout le système qui est derrière. Satan n'a qu'une idée, c'est de nous détruire. De nous séparer pour toujours de Dieu. Donc, c'est lui qui est le maître. Il y a un épisode dans les tentations du Christ. La tentation du Christ, c'est que Christ a été tenté par Satan. Vous connaissez, je pense. À un moment, parce que Satan est j'allais dire, fou d'adoration. Il veut l'adoration. Ça, c'est un autre sujet. Mais il voudrait que tout le monde l'adore, d'une manière ou d'une autre. Et il va aller jusqu'à... Il va démontrer cette soif d'adoration en disant, Christ, si tu te prosternes devant moi, si tu m'adores, je te donnerai tous les royaumes du monde. Est-ce que le Christ va dire, dis donc, t'es un imposteur, les royaumes du monde ne t'appartiennent pas? Est-ce que le Christ a dit ça? Non. Il a accepté, parce que c'est vrai. Bien sûr, le Seigneur ne s'est pas adoré Satan, il a dit, tu adoreras Dieu seul. Mais vous voyez, c'est une démonstration comme quoi ce monde est sous l'autorité de Dieu. Et étant sous l'autorité de Dieu, de Satan, pardon, les hommes le sont aussi. C'est pour ça qu'il est dit que nous marchions autrefois selon ce système. Le monde, les hommes ignorent qu'ils sont les proies de ce système. Galates 1, 4. Je rajoute, maintenant, notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher de ce présent siècle mauvais. Le mot est fort, arraché. Vous avez déjà arraché les mauvaises herbes? Hein, faut y aller, comme on dit. Hein. Le Seigneur nous a arraché de ce présent siècle mauvais. Et de ce fait, c'est pour ça qu'il y a une vie nouvelle. Donc, nous sommes arrachés de ce présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu notre Père. Conséquence qui doit être la nôtre, ma vision de ce monde perverti. Quelle est ma vision aujourd'hui? Quelle est la vision d'un chrétien devant ce monde d'aujourd'hui? Eh bien, nous avons ça, la réponse dans Galates 6, 14. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ par qui le monde est crucifié pour moi. Est-ce que vous avez crucifié ce système ? Est-ce que ça vous intéresse encore, ce système ? Où Satan est le maître ? Est-ce qu'un chrétien peut trouver des valeurs de ce monde positives ? Il y en a quelques-unes, mais si peu. Donc Paul dit, le monde est crucifié pour moi, tout son système de valeurs, comme je le suis pour le monde. Le monde nous a crucifiés. En crucifiant le Christ, il nous crucifie avec. D'ailleurs, malheureusement, il faut voir aujourd'hui le nombre de chrétiens qui meurent. Hein, vous connaissez peut-être Porte Ouverte ou d'autres. Il vient de sortir là, à nouveau le classement des pays qui persécutent le plus les chrétiens. En un, c'est la Corée du Nord. Et puis après, vous avez tous les pays musulmans, etc. Au Nigeria, tout ça. Le monde me crucifie. Mais c'est normal, je ne suis pas intéressé par ces choses. Je ne suis pas celui qui va vouloir avoir une Rolex. Rappelez-vous de cette publicité. Si à 50 ans, vous n'avez pas une Rolex, vous avez raté votre vie. Ces gars-là. Et puis après, c'est la voiture souci. Et après, c'est comme... Le monde essaye de nous attirer vers lui. C'est une drogue, ce monde. Alors, bien sûr, on peut avoir une vie de famille, on peut avoir une vie épanouie, mais sans vouloir. Le Christ dit, je te prie, dans Jean 17, je te prie pas de les retirer du monde, mais de les protéger du monde. Et nous, souvent des chrétiens... Par leur attitude, on voit qu'ils plongent, qu'ils plongent, qu'ils plongent. Paraître. Il faut paraître dans ce monde. Il faut paraître ou disparaître. Qu'est-ce que vous choisissez ? Aux yeux du monde, hein ? Attention, nous sommes là aussi en danger. C'est pour ça que dans cet épître d'Éphésiens, c'est bien dit. Vous marchiez autrefois, mais maintenant, le Christ nous a arrachés de ce monde. Pour que nous soyons dans un autre monde. Et dans l'Église, on est dans un autre monde. On est dans un autre monde, là. Entre nous, frères et sœurs. On touche déjà quelque chose de divin quand on est entre nous. Et c'est pour ça qu'il est indispensable, et c'était juste de le dire pour prendre le pain et le vin, qu'il n'y ait pas entre nous de non-pardon ou quoi que ce soit. S'il y a ça, vous êtes en grand danger. Vous allez être une porte d'ouverture pour Satan. Qui va toujours essayer de détruire l'Église. Alors nous, on n'a pas les Chinois, on n'a pas les Coréens, on n'a pas l'Islam, non, nous, on a nous. Ne va pas porter ton offrande à Dieu avant d'avoir réglé ton problème avec ton frère, c'est écrit. Nous sommes un monde, nous sommes le peuple de Dieu, ça fera cet après-midi, toutes les conséquences d'être à lui. Et combien je suis heureux, je pense que vous êtes heureux d'être hors de ce monde et d'être déjà dans un autre monde. Alors on va dire, les chrétiens, ils vivent déjà. Non. Un chrétien, il a les pieds sur terre. Il a la tête sur les épaules, mais il a le cœur déjà au pas. C'est pas ça ? Donc nous avons été arrachés. Romains 6, 19 à 22. De même, donc, qu'autrefois vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Voilà. Alors, les membres, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la pensée dirige mon âme et mon âme dirige mon corps. D'accord ? Oui ? Non ? L'esprit, comme communion avec Dieu, l'âme et le corps. C'est ce qu'il dit dans l'Épître aux Thessaloniciens. Paul dit que l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Donc, mes mains, mes pieds, sont la partie vivide, visible et vivante de ce que je pense et de ce que je suis. Vous êtes d'accord ? Donc, avant, qu'est-ce que je faisais avec mes membres ? Bon, tout le monde n'était pas voleur, hein, ou je ne sais quoi. Mais maintenant, avec mes membres, je fais... La gloire de Dieu. Je chante. Maintenant, mes membres sont au service de Dieu. À Nanterre, les frères et sœurs se réunissent régulièrement pour faire le marché. On a réussi, et ça c'est encore quelque chose d'extraordinaire, d'avoir une place sur un marché. Donc, de froid, tellement c'est pas facile, hein. Ils sont courageux, courageuses. Il y a autant de sœurs que de frères, d'ailleurs. Et donc, ils cherchent, avec leurs membres, un père à Dieu, en donnant. Avant, ils prenaient. Maintenant, ils donnent. Ils donnent des traités, ils donnent des évangiles, etc. Donc, on voit la différence. Vous comprenez ? Cette différence, qu'est-ce que je faisais avant, avec mes yeux aussi, qu'est-ce que je regardais, qu'est-ce que je vivais, etc. Donc, nous avons maintenant être esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. Comme ils sont beaux les pieds de ceux qui répandent l'évangile. Vous connaissez ce verset ? C'est un frère, un Australien, qui un jour, devant tout le monde, a montré ses pieds comme ceux-là. Vous avez vu comme ils sont beaux ? Nous, on ne comprenait pas très bien. C'était en relation avec un verset, effectivement. C'est un évangéliste. Voilà. Éphésiens 3, troisième partie. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, en accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, c'est-à-dire vivant comme tout être humain sur terre. C'est-à-dire que, bien entendu, notre pensée... La pensée, c'est quelque chose de très important chez un chrétien. La pensée... C'est de là que proviennent tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons provient de la vie de notre pensée. Quelqu'un qui n'a plus de pensée, parce que son âme, son esprit a été très abîmé pour une raison quelconque, son corps, il ne fait plus rien. Notre pensée, c'est le lieu, quelqu'un disait, c'est le cerveau, non pas le cerveau, mais l'endroit où il y a tout ce qu'on fait, tout ce qui est dirigé, tout ce qu'on veut faire. C'est pour ça que notre pensée, il faut la... Garde ton cœur aussi. Cœur, pensée, c'est un peu pareil des fois. Plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Voilà. Donc avant, étant donné que nous étions... ainsi, nous étions autrefois, Tite 3, verset 3 à 5, car nous aussi, nous étions autrefois... insensé. Ouais. Avant de connaître Christ, nous étions insensés. Désobéissants, égarés, asservis ou esclaves, dans d'autres traductions, à toute espèce de convoitise et de passion, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, digne d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Voilà le constat. Voilà le constat. Voilà d'autrefois. Et vous avez vu, c'est la convoitise. Le dernier commandement, c'est « Tu ne convoiteras pas ». Combien notre Dieu est intelligent. Il sait très bien que l'un des sujets de chute que nous pouvons avoir, c'est la convoitise. La convoitise qui me rend jaloux, qui me rend malheureux, à moins que je sois riche, je puisse m'acheter 10 voitures, 15 voitures d'appartements. Mais sinon, je convoite, je veux avoir, soit je convoite pour moi-même, un poste nouveau, un travail, etc. Alors c'est bon, il y a des choses positives, hein, quand ça vient de Dieu. Voilà. Mais lorsque c'est moi, ma pensée qui convoite, eh bien, immédiatement, ça ne va pas aller. Tu ne convoiteras pas. Tu ne convoiteras pas. Et dès que je sens qu'il y a en moi une convoitise, alors les convoitises, il dit la femme de ton voisin, sa maison, ses biens, etc. Attention. Qu'est-ce qui fait chuter un homme ? OAS. Vous n'avez pas connu OAS ? C'est une génération que vous n'avez pas connue. OAS, c'était le signe qu'on donnait pour les militaires français qui ne voulaient pas partir d'Algérie. Organisation d'armée secrète. O, comme orgueil. Les hommes, notre problème, c'est l'orgueil. L'orgueil. Qui a fait s'avancer des hommes dans ce monde et qui sont devenus vraiment des dictateurs. L'orgueil à avoir. L'argent. L'argent. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais alors moi, les plans de placement d'argent, placez-les plutôt pour les œuvres de Dieu, hein. J'en parlerai tout à l'heure. Et est-ce comme le sexe? C'est terrible aujourd'hui, le nombre de... Bon, vous avez entendu toute la pédophilie, toutes ces choses-là, mais même les couples et tout ça, quoi. Il n'y a plus rien qui tient. O-A-S. Orgueil, l'argent, le sexe. Déjà, vous tirez ça de votre convoitise, bah, vous aurez la Légion d'honneur, peut-être. Donc, nous étions ainsi. Romains 13, 12. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière, sachant que nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes. Ça, c'est Éphésiens 2, 10. Voilà. Donc, c'est un changement complet de mentalité entre autrefois et maintenant. Je veux maintenant servir le Seigneur. Je veux maintenant entrer dans ses œuvres bonnes. Ses œuvres bonnes. Dans la religion, on fait des bonnes œuvres de façon à mériter le salut. C'est ce que j'ai fait, hein, un certain temps. Les êtres humains pensent que par faisant des choses de ce genre-là, eh bien, ils vont faire un pas vers Dieu. Je ne dis pas que Dieu n'est pas sourd à ceux qui font des bonnes œuvres, hein. Attention, Médecins sans frontières et d'autres choses de ce genre-là, j'ai dit bravo, hein. Mais Dieu nous a créés, une fois que nous sommes nés nouveaux, pour des œuvres bonnes, selon lui. Pour des œuvres bonnes. Et donc, nous allons essayer maintenant de rentrer dans ces œuvres bonnes. Alors, chacun d'entre nous. Il n'y a pas que le pasteur ou je ne sais qui a l'ancien, etc. Non, nous sommes tous appelés à faire des œuvres bonnes, maintenant. Donc, quelqu'un tout récemment me disait, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais je dis, écoute, c'est simple. En un, la disponibilité. Seigneur, je vais faire des œuvres pour toi. Mais alors, écoute, le soir, j'ai rendu travail, il est 8h, il faudra dire 11h. Je peux faire entre 11h et 11h15. On n'est plus disponible. Le monde nous empêche d'être disponible. Maintenant, je vais trouver, Seigneur, de la disponibilité pour toi. Et une fois que j'aurai la disponibilité, le Seigneur me donnera des choses à faire. Souvent on dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour te servir? Mais on ne se rend pas disponible. Donc nous avons ces œuvres bonnes à faire pour le Seigneur. Éphésiens 2, 6, ressuscités ensemble et assis ensemble dans les lieux célestes. Alors là, non seulement vivifiés, vous l'avez lu, hein, notre frère l'a lu tout à l'heure et je le relis, hein, nous avons été ressuscités ensemble, verset 6, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Déjà, potentiellement, nous sommes des célestes. Déjà, potentiellement, chose incroyable, si ce n'était pas écrit, j'aurais du mal à le croire, non seulement je suis ressuscité avec Christ, mort et ressuscité avec Christ, ça c'est le baptême, l'immersion, mais plus de ça, maintenant je suis auprès de Dieu, déjà. Je suis déjà assis auprès de Dieu et assis ensemble. Vous le croyez, ça? C'est pas possible. Si ou pas? Oui. Bonjour les ressuscités. Comme ça, je vais dire maintenant quand j'allais dans une église. Bonjour les ressuscités. Nous sommes ressuscités. Comme Christ est ressuscité, c'est ça, 1 Corinthiens 15. Hein. Comme Christ est ressuscité, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Et c'est pour ça que nous n'avons pas à craindre la deuxième mort qu'est l'enfer. Nous sommes ressuscités avec Christ. C'est extraordinaire. Le plan du salut, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un si grand salut, bien-aimé. Cherchez, fouillez à tout le comprendre. Pour vous, pour votre vie personnelle. Donc, si donc vous êtes ressuscité, cherchez, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ben oui! Colossiens 3, 2. Soyons, allons jusqu'au bout. Est-ce que vous êtes des investisseurs? Vous investissez dans la pierre? Vous investissez dans l'or? Vous investissez en quoi? Il est dit, c'est pas écrit comme ça, mais ça veut dire ça, eh bien d'investir dans les choses célestes. Il est dit, cherchez et affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Je veux être un investisseur dans les valeurs spirituelles. Et toutes ces valeurs spirituelles, c'est dit tout à l'heure, au début de l'épître aux Éphésiens, elles sont à notre disposition. Quelles sont ces valeurs spirituelles ? Ben, c'est très simple, pour moi, ce sont les qualités qui étaient en Christ. Seigneur, augmente en moi, par ton esprit, par la vie de ton esprit en moi, eh bien ces qualités, ces dons d'esprit. Je veux être ressemblant à l'image de Christ. Voilà les valeurs spirituelles. Malheureusement, si nous ne cherchons pas ces valeurs spirituelles, que va-t-il se passer ? C'est dans l'épître de Pierre. Je veux dire, c'est un passage assez dur, mais qu'il faut lire. Voilà. C'est dans la deuxième épître de Pierre. J'ai encore combien de temps avant qu'on coupe le micro et tout le... qu'on jette dehors ? 10 minutes, un quart d'heure ? Donc, second épître de Pierre, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. C'est dans Pierre, alors que tout à l'heure on a vu que Paul disait exactement la même chose. Afin que vrai, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde, par la convoitise. Vous voyez, les apôtres disent exactement la même chose. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à la foi. Alors voilà les valeurs spirituelles. Voilà où on va investir. À votre foi, la vertu, la science, à la science, la tempérance, la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, l'amour. Il y a du travail. Est-ce que vous croyez que Dieu veut que nous investissions dans ces choses ? C'est réservé qu'à certains ? Non, c'est pour chacun de nous. Et là, il est clair que Pierre s'adresse à tous ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Donc, tous les chrétiens. Car... si ces choses sont en abondance, sont en vous et ils sont avec abondance, vous voyez, l'investissement. J'investis et je veux que mon investissement soit abondant. Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance, encore une fois, de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Attention, bien-aimé, risque de ne pas comprendre que nous devons acquérir ces choses. Il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés, c'est-à-dire de toute sa nature, on peut dire. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en cela, vous ne broncherez jamais, vous ne chuterez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée, ou richement accordée. Il y avait un frère qui a été pour moi un de ceux qui, sur ma route, m'a apporté beaucoup. Je remercie le Seigneur pour tous ces frères et sœurs que le Seigneur a passés sur ma route et qui m'ont vraiment, vraiment fait du bien. Et je remercie le Seigneur parce que c'est bon d'avoir des gens qui, comme ça, bien. Il disait, c'est Ralph Chalice qui disait, qu'est-ce que ça veut dire pleinement ou richement, une autre, selon Darby, accordé. Il disait, certains vont entrer dans l'éternité. Alors, il y en a qui seront sauvés comme à travers du feu. Ça, c'est terrible. Hein. Mais il y en a qui seront sauvés, mais qui n'auront pas mis leur confiance en Dieu et qui ne vont pas demander à Dieu que toutes ces richesses, eh bien, ils travaillent pour les avoir. Ils vont investir pour les avoir. Il me dit, certains seront un peu comme des bébés. Un hochet leur suffit. Vous avez un bébé, vous lui donnez un hochet, il est content. Ça vous intéresse un hochet pour l'éternité ? Et ce frère disait, je veux tout. Je veux tout. Seigneur, je veux investir dans ces choses qu'on vient de lire pour l'éternité. Certains ont mis en oubli, hein, certains sont aveugles. Ce salut est tellement grand, il est tellement beau que nous ne devons pas passer à côté. Je continue. Les investisseurs, le club des investisseurs. Alors nous, c'est pas monnaie, hein. Vous avez compris, j'espère. Hein. Bon, c'est bien. Éphésiens 3, verset 3, c'est le quatrième point, ça sera le dernier. Nous étions par nature des enfants de colère, sous la condamnation de la juste colère de Dieu, comme les autres. La colère de Dieu se révèle contre toute impiété, ça c'est dans l'Épître aux Romains aussi, hein. Ils veulent pas croire. Les gens veulent pas croire. Alors vous avez les athées. Athées, ça veut dire sans Dieu. Alors, les gens sont fous, hein. Ils croient que Dieu n'existera pas si je ne crois pas en lui. Est-ce que Dieu a besoin pour exister qu'on croit en lui? Alors l'athée, il va dire, moi je ne crois pas en Dieu, donc Dieu n'existe pas. Boum. Qu'est-ce qu'il a dans sa tête celui-là? L'agnostique. L'agnostique, c'est encore un grand groupe de gens qui vont vous dire, j'en connais, qui m'ont dit, oui, Dieu existe, mais on ne peut pas le connaître. A, privatif, gnosos, la connaissance. On ne peut pas le connaître. Non mais ça sert à quoi alors? Ça sert à quoi? Quand on ne veut pas croire, on fera tout ce qui est possible pour ne pas croire. L'évolutionnisme, c'est ça. Je donne des conférences sur ce sujet, évolutionnisme, créationnisme. Il y a un Américain, bon, oui, c'est un Américain, prix Nobel, qui a dit, tout prouve la création, mais je ne veux pas croire en Dieu. Vous vous rendez compte un peu? Ce gars, comment il se condamne? Donc, autrefois, nous étions sous la colère. Colossiens 1, versets 21 et 22. Vous qui autrefois, toujours ce mot, hein, étrangers et ennemis par vos pensées, toujours, hein, et par vos mauvaises œuvres, qui découlent de nos pensées tordues, il vous a maintenant, réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour nous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Encore une fois, Paul emploie pour bien nous faire comprendre ces termes autrefois et maintenant. Donc, autrefois, nous étions étrangers, ennemis par nos pensées et par vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort, dans le corps de sa chair, le Christ, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans. Vous vous rendez compte? Regardez la différence. Une fois, nous étions étrangers, ennemis. Et après, nous sommes saints, irrépréhensibles et sans reproche. Voilà l'œuvre de Christ. Vous vous rendez compte? La différence entre les deux. Un si grand salut. Conséquence. Bien-aimé, 1 Jean 3, 2. Ce verset, bien-aimé, il faut le connaître par cœur. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Pas plus tard. C'est aujourd'hui qu'on peut commencer à être enfant de Dieu. Souvent, on croit qu'une fois qu'on est mort, il y a un jugement. Oui, il y aura un jugement, mais pas pour nous. Pas pour nous. Nous sommes déjà jugés en mourant avec Christ et en ressuscitant avec lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Pas plus tard. Maintenant. Et puis, autrefois, vers chapitre 5, Éphésiens 5, verset 8, c'est pareil, toujours ces termes qui reviennent. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Vous vous rendez compte un peu? Merci Seigneur pour ces hommes qui ont écrit ces choses, pour bien me faire comprendre et nous faire comprendre à quel point notre destinée a complètement changé. Complètement changé. Et c'est vrai que nous étions avant ténèbres, Éphésiens 5, 8, et maintenant vous êtes lumière. Voilà, lumière. pas des lumières intellectuelles forcément. Quand on dit quelqu'un, c'est une lumière. Les lumières, il faut s'en méfier. Et le siècle des lumières a été le pire des siècles pour la foi chrétienne. Voltaire. Opposé à Dieu. Je vais raconter quelque chose d'extraordinaire, c'est entre nous. La mairie de Nanterre nous prête une salle. Et puis il y a une salle où il y a eu des travaux. Et on était dans une autre salle. Donc on a pu étudier la Bible. Et cette salle s'appelait la salle Voltaire. L'humour de Dieu. Dans la salle Voltaire, des chrétiens, alors qu'il avait dit que dans quelques siècles, tout ça sera disparu, des chrétiens étudiaient la Bible, dans la salle Voltaire. Donc, autrefois, nous étions ténèbres, mais maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Maintenant. Amen. Seigneur, je veux te louer parce que ton salut est extraordinaire. Je te demande pardon parce que il y a beaucoup de choses que je ne connais pas ou que je ne comprends pas. Mais ce que je comprends et ce qu'on peut vivre est tellement merveilleux. Seigneur, je te prie que ici personne ne reste dans l'autrefois. Qu'il ait le courage de venir à toi pour se repentir de sa vie passée, de tout ce qui a été cette autrefois, toutes ces choses laides qu'il a pu faire et qui sont condamnables par toi. Seigneur, merci parce que tu vas donner à chacun une vie nouvelle, une vie merveilleuse, grande, à tes côtés, sous ton autorité, dans ton amour. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous, parce que tout ce qu'on a vu, c'était toujours parce que Christ. Oui, nous disons, c'est lui notre Sauveur et notre bien-aimé Seigneur. Et nous voulons vivre maintenant sous son autorité et sa bénédiction. Amen.